This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Mandine, directrice de la communication du groupe Orange. Bonjour Béatrice.
Bonjour Alice.
Je suis ravie de t'accueillir. Tu vas nous parler d'un groupe que je pense tout le monde connaît. Mais avant ça, moi j'ai envie de savoir qui tu es toi, en tant que femme, en tant que directrice, en tant que tout. D'où tu viens, quelles sont tes passions, ton parcours, enfin, en fait ce que tu as envie de me raconter sur toi.
Alors, d'où je viens du sud de la France, donc c'est des bords de la Méditerranée, donc ma famille est plutôt marseillaise, mais en fait comme c'est une famille d'officiers de marine, ils ont dérapé un petit peu vers Toulon et toute cette région-là, de la Valette du Var, en plus précisément. Et donc je suis assez méditerranéenne et assez portée vers l'océan et la mer, j'aime beaucoup ça. Sinon, je fais mes études à Paris.
Cursus classique classique en même temps, il n'y a peut-être pas de cursus classique maintenant, j'ai envie de dire.
Alors, je ne sais pas s'il y a un cursus classique pour les postes de DIRCOM aujourd'hui.
École de commerce,
presque,
souvent quand même,
oui.
Ou de communication.
Voilà, en fait non, cursus pas très classique, puisque moi je me suis beaucoup cherchée, j'ai fait des classes prépa, et puis j'ai pas aimé ça.
T'étais plutôt bonne élève.
Et du coup, j'étais bonne élève, on m'avait envoyé en maths sup, et c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et en fait j'étais plutôt littéraire, et donc j'ai pris un virage assez radical, puisque... J'ai fait une prépa veto, une maths sup.
Ah oui, donc non, pas le cursus.
Une médecine, une première année de médecine dans la même année. Et
donc
puis
ce
finalement.
Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut se tromper. Enfin, on peut changer de chemin.
Je me suis beaucoup cherchée. Ouais. Oui. C'est une des choses qui sont probablement les plus difficiles, c'est l'orientation, puisque on est très jeune à l'époque. Je connaissais rien, donc. Le système français vous pousse quand même assez naturellement vers des études scientifiques ou un peu élitistes. Et c'était en fait pas du tout ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'écrire et donc j'ai fini par trouver ma voie en école de journalisme. Et donc j'ai une formation de journaliste au démarrage. C'est comme
quoi,
ça que j'ai fait l'ESJ, l'école supérieure de journalisme.
D'accord.
Et du coup, après, j'ai un peu bossé dans des rédactions. Et puis, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait tout de même que je gagne ma vie, parce que c'était très sympa.
C'est pas très rémunérateur.
Mes parents étaient très sympas aussi, mais il y avait un moment, il fallait gagner sa vie, et donc je suis rentrée j'ai eu l'opportunité de rentrer comme faire du journalisme d'entreprise, à l'époque dans un groupe qui s'appelait la Compagnie Générale d'Électricité, qui est devenu Alcatel-Alstom, puis Alcatel, plus rien du tout. Puisque malheureusement, c'est un des plus grands désastres industriels qu'il y ait eu en France et aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais j'y ai quand même passé 10 ans et où j'ai appris, en fait...
Ça s'est terminé quand, ça, déjà, Alcatel?
Alors, Alcatel, aujourd'hui, la marque, elle a disparu. La fin de la marque Alcatel, c'était probablement en 2002, 2005. Puis après, il y a eu Alcatel-Lucent, ils sont mariés avec des Américains, et puis ça a été racheté par Nokia. Donc,
et toi, t'as vécu la fin dans
Non. Moi, j'ai quitté Tesla avant. D'accord. Donc, j'y ai passé quand même une dizaine d'années.
T'as senti que le navire coulait et tu t'es dit, Alors, je quitte.
Je peux pas dire ça. Je me suis vraiment, vraiment beaucoup plu dans le groupe Alcatel. C'était un vrai groupe international, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de marques qu'on connaît ou qu'on voit comme des marques internationales. Ce sont en fait des marques françaises ou européennes ou même américaines qui exportent dans le monde, mais qui ne sont pas des cultures internationales. Alors, pour le coup, Alcatel, comme Orange d'ailleurs, c'est des... au départ, ce sont des entreprises qui sont nationales et qui forment un groupe. Donc, il y a une vraie réalité de culture internationale qui est un peu plus complexe à gérer, mais très enrichissante à vivre. Donc, moi, j'y ai passé 10 ans chez Alcatel. Je me suis beaucoup amusée. Je suis rentrée par la com interne pour faire du journalisme d'entreprise et puis assez rapidement au service de presse. Le fil rouge de mon parcours, c'est l'information. De toute façon, modéliser l'information et de là à la communication, c'est pas très différent en fait.
Et après Alcatel, du coup, t'as rejoint tout de suite Orange ?
Non, j'ai fait un petit tour. Alors d'abord, j'ai quitté Alcatel, j'ai eu envie de tester l'entrepreneuriat.
Ah, toi aussi, t'as tenté ?
On a toujours envie de ce qu'on n'a pas en fait. Donc j'étais toujours dans une grande boîte, j'avais l'impression que j'avais fait le tour, donc je me suis dit, je vais aller dans une toute petite boîte. On était 2 avec moi, donc elle était vraiment petite. Et j'ai fait du conseil en relations presse et puis assez rapidement, c'était assez sympa parce qu'en fait c'était
on est plus libre.
Oui, c'est pas tant ça, mais c'est que ça répondait à ma curiosité naturelle. Je picorais à droite à gauche, plein de choses différentes, et en même temps la frustration, c'était que c'était assez court-termiste, c'est-à-dire que je passais d'un sujet à l'autre et il y avait pas de suivi en fait de cela. Et puis je me suis dit que tout compte fait, j'avais quand même envie d'une aventure plus collective. Et plus, alors j'allais dire long terme, ça n'existe plus, mais plus à minima moyen terme, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu davantage de suivi que des missions ponctuelles comme ça, et qui étaient aussi liées à la taille de la boîte, hein, parce que compte tenu de la taille de cette entreprise-là, eh bien on était toujours soit c'était des missions ponctuelles, soit c'était en soutien d'une autre plus grosse équipe, mais enfin il n'y avait pas beaucoup de suivi. Donc là, je suis rentrée dans l'automobile. Dans le groupe PSA. Donc chez Faurecia, exactement, et qui est l'équipementier de PSA, qui était aussi un challenge intéressant parce que, enfin, moi j'adore l'industrie, j'adore les usines, et c'est un truc de dingue, l'industrie automobile. Alors c'est un milieu de passionnés, et en même temps il y a des contraintes économiques qui sont folles, parce que c'était un moment où, dans le groupe Faurecia, il y avait 160 usines dans le monde. Avec un moment où l'explosion du prix des matières premières était tout à fait patente. Et à côté de ça, il y avait une demande de segmentation et de personnalisation qui était folle. Donc en même temps, il fallait faire de plus en plus de modèles avec des matières premières qui étaient de plus en plus chères et une aspiration des clients qui est toujours la même, il faut que ce soit accessible pour le plus grand nombre. Donc finalement, l'équation n'est pas simple. Voilà.
Et comment t'es passé de PSA, du coup, d'un groupe de PSA à Orange?
Alors,
opportunité ou envie?
Alors, je suis revenue à mes premières amours, si je peux dire ça comme ça, puisque je suis revenue au télécom. Enfin, j'ai pas du tout de formation d'ingénieur télécom. C'est juste que probablement, j'ai un côté un peu rationnel et j'aime bien cet environnement-là. Mais c'est l'expertise de la communication d'entreprise qui m'a fait arriver là-dedans. C'est aussi un petit monde. Et donc, effectivement, je suis rentrée par le service de presse chez Orange, donc en 2008. Et puis, ben là, c'est un peu la démonstration d'un parcours interne. Ça arrive, des progressions comme ça. Alors, puisque moi, je suis depuis 2008 chez Orange et que j'ai...
Aujourd'hui, t'as un poste quand même...
Eh bien, oui, mais en même temps, c'est assez cohérent parce que la ligne, elle était claire depuis le début. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois l'information, d'être un peu un trait d'union entre une réalité d'entreprise et puis l'ensemble des observateurs, on va dire, au sens large, et faire en sorte que l'image de la boîte soit conforme à ce qu'on est, en fait, que chacun se reconnaisse.
Et d'ailleurs, justement, c'était la question que je voulais te poser. Est-ce que tu te reconnais dans le groupe Orange, dans la marque Orange, finalement? Parce que la télécom, qu'on le dise, c'est quand même pas très sexy en général. Et la perception que les gens en ont, c'est que c'est une offre souvent, pas qu'ils se font un peu entubés, mais quand on regarde notamment les gens qui parlent d'Orange ou de Bouygues ou de la concurrence, on se plaint en général du forfait, du prix du forfait, du truc qui marche pas, etc. C'est compliqué, je pense, d'être à la tête de la communication d'un groupe comme ça.
Alors d'abord, je le vis très bien. Je me reconnais très bien là-dedans. Ce que tu décris, c'est un prisme très français.
C'est-à-dire je suis d'accord aussi avec toi.
Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que le groupe Orange, c'est un groupe qui est présent pour ses activités grand public dans près de 30 pays. Donc avec une empreinte géographique qui est assez verticale, puisque c'est Europe-Afrique, on est dans 20 pays en Afrique, donc c'est des réalités qui sont un peu différentes.
Et en Afrique, ça va être complètement différent, la perception, je pense.
Et pour ce qui est du B2B, en fait, c'est les grands comptes en fait chez Orange qui sont accompagnés. Ils sont présents dans le monde entier puisque de fait ils suivent leurs grands clients. Donc ils sont présents absolument partout. Donc je le disais en introduction, c'est une vraie entreprise internationale indiscutablement. La vision qu'on en a en France, c'est assez paradoxal parce que c'est presque là où l'image d'Orange est la moins rayonnante. Ça a été marqué par l'arrivée de Free en 2012 et un discours, la vague du low cost qui n'a pas touché que la France, parce que ni que les télécoms ni que la France, mais en tout cas en France c'est arrivé avec Free Mobile en 2012 et avec un discours, on va dire quand même somme toute assez agressif. Donc c'est les fameux pigeons de nos amis de notre ami
c'est
Xavier Niel.
C'est raison que c'est depuis ça qu'on est. Que la perception des autres grands groupes de la téléphonie.
C'est une vision très franco-française. C'est absolument pas le cas ailleurs. D'ailleurs, pour la culture générale de tout le monde, faut quand même savoir que les prix des télécoms en France, hein, parce qu'on s'en plaint beaucoup. Évidemment, c'est quelque chose qu'on paye tous les mois. Donc, on est comme tout le monde, moi, individu, en tant qu'individu, payer mes factures, c'est jamais un plaisir. Néanmoins, il faut quand même se rappeler que c'est un besoin absolument essentiel, que pourquoi on a tous des mobiles ou des connexions Internet, c'est qu'on aurait du mal à vivre sans. En tout cas, on a plaisir à vivre avec. Donc, c'est quand même... On propose un service que tout le monde veut avoir, donc on va quand même pas se plaindre. Après, oui, on paye tous les mois. Donc, c'est pas pareil que...
C'est presque devenu un service indispensable aux Français.
Oui, c'est essentiel.
D'où les plaintes, en fait, en général. D'ailleurs, je trouve que les Français, que les Français se plaignent davantage de services dont ils ont besoin, une vraie nécessité, comme l'assurance maladie, etc., que des choses qui sont un choix, beaucoup moins une nécessité. Aujourd'hui, je pense qu'avoir la 4G, avoir un forfait mobile, c'est presque devenu indispensable. Sinon, on est coupé du monde.
Non, mais ça, je vais pas vous faire une présentation, mais on a de nombreuses études depuis longtemps qui montrent que les prix des télécoms, dont effectivement on se plaint beaucoup, parce que c'est devenu essentiel et parce que l'usage est devenu exponentiel. Donc c'est aussi ça qui est...
On a trois téléphones.
C'est aussi ça qui fait que ça finit par coûter. Néanmoins, la part des télécoms dans le budget des ménages, il fait que baisser. Donc comparez-le au prix du logement, puisqu'on est parisien, c'est effectivement, ou dans les grandes villes, c'est quand même un sujet. Et puis au-delà de ça, il faut faire des comparaisons qui sont simples. Aujourd'hui, je n'ai pas révisé mes chiffres, mais le prix moyen d'un forfait de connexion Internet, ça doit être dans les 15 euros. C'est le prix d'une journée de parking dans Paris.
Tout est relatif.
Vous payez 15 euros par mois pour une connexion Internet. Il faut remettre les choses à leur place.
D'ailleurs, quand on parle aussi du français, du consommateur, de l'utilisateur, aujourd'hui, il y a quand même un aspect complètement... une nouvelle dimension que tous les grands groupes doivent prendre en compte, qui est la dimension écologique. Comment Orange répond à cela? C'est quand même compliqué pour une marque de téléphonie de parler écologie.
C'est pas si compliqué que ça. Alors il y a une idée reçue qui tient au... Nous on est assez sensibilisés à ce sujet parce que Stéphane Richard, notre boss, a été, je pense, le premier à aller contre l'idée reçue selon laquelle c'est digital, donc c'est éco-responsable. Alors, évidemment qu'on fait comme toutes les grandes entreprises, tous les efforts du monde pour pour
déjà en interne
évidemment voilà. Pour avoir une empreinte écologique la plus faible possible, mais on est les premiers à sensibiliser au fait que si Internet était un pays, c'est comme ça qu'on le compte, ce serait le sixième pays le plus pollueur du monde. Donc c'est pour éveiller une forme de conscience que c'est pas parce que c'est digital, c'est pas parce que c'est dématérialisé que ça n'a pas d'impact sur la planète. Ça en a. Moi je me souviens depuis, ça date pas d'hier, parce que la COP, au moment de la COP 21, on avait lancé des initiatives qui qu'on avait appelé les e-cleaning days et qui favorise en fait le tri dans sa boîte mail. Parce que c'est tout ce que vous gardez dans votre boîte mail, faut vous dire que c'est quelque part sur un serveur et donc ça consomme de l'énergie pour le stocker alors que vous allez jamais revenir dessus. Donc les mails inutiles, bah il vaut mieux avoir la discipline de les supprimer puisqu'ils encombrent vos boîtes mail et ils dépensent de l'énergie. Et on avait même fait un petit compteur à l'époque où on était arrivé à convertir les mails qu'on mettait dans une petite poubelle adéquate sur votre desk et pour savoir combien de CO2 vous aviez sauvé pour la planète. Donc ça, cette posture, on va dire d'éco-design, évidemment, comme beaucoup on le fait, on a des serveurs aussi, comme Amazon ou Google, et on les développe pour qu'il soit le plus vertueux en termes de consommation d'énergie, bien sûr, mais on va en fait au-delà de ça, c'est car sur la posture d'Orange en tant que marque cette fois, ou dans son expression de marque, nous on considère qu'on a un rôle comme leader du digital à avertir effectivement sur l'impact de la planète, mais d'une manière générale, sur d'un côté les bénéfices que le digital peut offrir à tout le monde et à chacun, et de l'autre côté, les risques qu'ils génèrent. Donc, au titre de ces risques, déjà en termes de stratégie d'entreprise, nous, on a beaucoup investi dans la cyberdéfense parce qu'on est conscient que la multiplication des usages, ça multiplie les fraudes, ça multiplie les risques. Il y a tout le sujet des données personnelles, de la protection des données personnelles et du hacking au sens large. On a fait, vous vous en souvenez peut-être, ces derniers mois, plusieurs campagnes qui avait vocation à sensibiliser l'opinion publique, soit sur les risques du téléphone au volant avec la sécurité routière, soit sur les risques sur les données personnelles et sur le phishing, de sensibilisation sur le phishing. Là, on prend la parole en France depuis quelques semaines sur les risques des écrans, ou du temps qu'on passe devant les écrans pour les enfants, et ça peut être aussi les contenus qui sont inappropriés, et on prendra la parole un peu plus tard dans l'année sur plus largement sur l'écologie et sur le respect de la planète, peut-être le climat. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont faites là-dedans, mais d'une manière générale, on considère qu'on est crédible comme marque à vanter les bienfaits du digital si on est aussi averti. Et si on avertit nos clients des risques qu'ils présentent.
Donc finalement, vu la puissance du groupe, vous êtes plutôt un porte-parole. Mais moi j'ai peut-être une question, ce qui est peut-être un petit peu embêtant. Enfin, c'est concrètement en termes d'action écologique, par exemple, quand on a quand on voit le slip français qui va faire des slips avec du coton recyclé, etc. C'est plus simple quand il y a un produit pour le rendre plus éco-responsable. Quand on a une offre comme ça digitale, est-ce qu'on peut la rendre plus éco-responsable ou est-ce que c'est juste impossible?
Non, bien sûr, c'est toujours plus simple quand on n'a qu'un seul produit. C'est-à-dire que dans le cycle de développement du produit, vous pouvez à toutes les étapes démontrer que vous êtes le plus responsable possible. Des indicateurs de respect, on va dire, de l'environnement au sens large, comme dans toutes les boîtes, on en a dans nos rapports, on les publie, tout ce qu'on veut. Ça va au-delà de ça. Et puis on est engagé dans beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens du respect de l'environnement. J'en cite qu'un au passage, qui est le recyclage des mobiles, par exemple. Donc on fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. On a un réseau de distribution. De fait, on vend beaucoup de mobiles, donc on ne les construit pas, mais pour autant, on a une forme de responsabilité dans la distribution de ces mobiles.
Oui, tout à fait.
Et on a mis en place des filières qui à la fois récupère les anciens téléphones dans les boutiques Orange, et puis il y a tout un parcours pour les recycler et les revendre d'ailleurs sur d'autres marchés. Et
vous avez des startups d'ailleurs qui vous accompagnent
beaucoup,
en RSE.
Beaucoup.
Ah oui, on a un petit vieux de startups. Ouais.
On a, d'une manière générale, on travaille beaucoup avec des startups et c'est de l'enrichissement mutuel. C'est-à-dire qu'on apprend d'elles et elles peuvent tester chez nous sur des bases réelles, enfin en fonction de ce dont elles ont besoin. Mmh. On a un programme par exemple qui s'appelle Orange Fab qui est dispatché dans le monde. Je pense qu'il doit y avoir une dizaine d'Orange Fab et qui scanne les startups, et il y a des promotions tous les ans, donc ça sélectionne des startups qu'on trouve innovantes et du coup on les accompagne, on les accélère et suivant la startup et suivant l'innovation qu'elle développe. Ben, elles ont besoin soit de tester en grandeur nature sur nos réseaux avec nos clients des innovations, soit elles se rapprochent du marketing parce que c'est ce dont elles ont besoin, soit elles se rapprochent de la R&D parce que il y a quelque chose qu'elles ont besoin de développer de manière plus solide ou d'une expertise qu'elles n'ont pas. Enfin, c'est un peu à la carte.
Mais et Back Market, c'est une des startups ou pas?
Non.
Non.
Enfin, je connais pas toutes, hein, parce
que
depuis.
C'est eux qui justement font de la revente de portables déjà.
Alors je vais pas vous dire de bêtises, mais je pense que de tête on a dû accompagner à peu près 600 ou 700 startups depuis 5 ans.
D'accord.
Donc je suis pas sûre de les connaître toutes par cœur. Mais
ce serait on mettrait ça dans le Guinness peut-être sinon.
Mais non, j'aurais pu les apprendre, mais je vais vous dire
je
des bêtises.
Je suis déçue.
Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que oui, il y a des initiatives concrètes, parce que de toute façon, il faut des initiatives, des preuves en fait de
oui, c'est
de
ça, c'est des choses qui parlent, parce que c'est vrai que le consommateur aujourd'hui fait bon bah il prône le bon message, mais là concrètement, on sait que bah non, vous agissez aussi à votre échelle, puisque à un moment il y a des choses sur lesquelles on peut pas
c'est clair,
prendre
c'est
des
clair.
Choses plus responsables.
Il faut déjà commencer par balayer devant sa porte, c'est une bonne discipline. Donc on le fait à la fois, je vous le disais, pour le développement de nos services. Après il faut pas se raconter d'histoire, c'est-à-dire que à la fois la technologie elle-même, le plus souvent, comme elle est éco-designée, elle est vertueuse elle-même. Après, c'est l'explosion des usages qui fait que aujourd'hui, à la fois, si je prends des réseaux par exemple, vous pouvez avoir effectivement de génération en génération des technos qui sont vertueuses du point de vue de l'environnement, et en même temps, on nous demande de déployer de plus en plus de réseaux d'étendre la couverture. Et chacun individuellement, on a une consommation et une explosion de ces usages qui fait que globalement, quelle que soit la conception de votre technologie, elle a forcément plus d'impact
la personne,
sur la planète.
Tout à fait, oui.
Donc en fait, la posture qu'on a adoptée et qui ressemble bien à Orange aujourd'hui, c'est l'objet. Moi, mon rôle, c'est de mettre des mots sur le comportement et la posture qu'on a adoptée chez Orange. Et c'est de dire, c'est ce postulat qu'on partage tous, c'est-à-dire qu'on a tous de très grandes responsabilités et de très grands pouvoirs avec le digital et aussi de très grandes responsabilités. On dit nous. Nous avons tous de grands pouvoirs avec le digital et nous avons de grandes responsabilités. Ça veut dire Orange, c'est nous qui parlons. On a cette responsabilité vis-à-vis de nos clients, mais vous et moi, on a tous individuellement aussi la responsabilité sur nos usages.
Oui, on vous donne ce service, à vous d'en faire bon usage et à vous d'être éco-responsable.
Voilà. On ne doit pas être moralisateur, on ne doit pas être donneur de leçons. Le digital, c'est des bénéfices formidables pour chacun. Mais maintenant, on doit être transparent sur les risques. Donc il y a aussi des risques à trop utiliser cela. Évidemment, au volant, c'est une évidence, mais c'est plus
même
fort.
Même en marchant maintenant,
c'est
même
plus
les
fort.
Gens qui traversent, les gens qui traversent.
Bien sûr, il y a plein d'accidents de ce genre.
La trottinette électrique, n'en parlons pas.
Mais sur les risques du temps d'écran, c'est un truc de fou. Sur le fait que les enfants aient accès à des contenus qui parfois sont totalement inappropriés, compte tenu de leur âge. Enfin, il y a énormément de choses qui font que il nous semble qu'il est responsable de la part d'Orange d'avertir ses clients là-dessus. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais les dernières études qu'on a faites avec l'Observatoire du Digital, qui est un observatoire qu'on a mis en place avec Opinionway, nous démontre que en moyenne nous allons passer 26 ans devant un écran dans notre vie. Alors, c'est probablement pire.
Non, parce que moi, je marche avec mon portable.
C'est une moyenne.
Je fais 15 km, 15 à 20 bornes à pied par jour. Donc oui, moi, je risque de me faire écraser par une voiture tous les jours.
Ça sera quand même 26 ans.
Ça fera 26 ans de marche avec mon portable. J'admets. Non, mais là, c'est stressant. Ça veut dire que j'ai 29 ans. Bon, eh ben, j'ai vécu 4 ans.
Voilà. Ah, mais c'est à la fin que c'est important de pouvoir avoir des petites alertes comme ça.
Là, je pense que on va mettre ça en pub à la télé. Je pense qu'on va avoir un taux de suicide qui va.
Non, mais en même temps, est-ce qu'il faut interdire aux gens de passer plus de X heures par jour? Non.
Non, mais en plus, ça dit.
On n'est pas là pour être castrateur. Nous, on vous donne l'information. On est convaincu que la révolution digitale, elle est positive pour l'humanité, pourvu qu'on soit averti des risques et pourvu qu'on se comporte raisonnablement, mais ça nous appartient à chacun.
C'est vrai.
À nous de choisir.
J'ai fait mon choix, moi, je crois. Et quels sont tes prochains challenges, alors?
Alors, les prochains challenges, c'est...
Il y en a quand même toujours pas mal, je pense.
On s'ennuie jamais, tellement chez Orange, l'actualité est assez riche. C'est précisément d'émerger un peu dans ce monde. Nous, la volonté qu'on a quand même, c'est un secteur que tu décrivais tout à l'heure comme étant un peu attaqué, avec une mauvaise image. C'est pas tout à fait la réalité à l'échelle de la planète.
Et puis même en France, c'est pas le pire Orange, notamment même sur les médias sociaux, puisque c'est un peu là où je fais de la veille. Et souvent, je prends Orange comme exemple.
On peut se rassurer.
D'une marque qui arrive, malgré son offre plutôt controversée, à émerger, à avoir des évangélistes. Vous êtes plutôt très bon sur les médias sociaux.
Mais dans le monde du digital, moi, mon ambition, et que je partage quand même avec mon boss, c'est qu'Orange propose une autre voie, une autre vision du digital. On a une vision très positive. Ça, c'est objectivement l'ADN d'Orange, donc ça tombe bien. Parce que depuis le début de la création de cette marque, elle a une vision assez positive des choses et assez singulière. Et pour autant, on n'est pas chez les bisounours. C'est-à-dire qu'encore une fois, on sera crédible sur les bienfaits du digital pour peu qu'on soit honnête et transparent. Et qu'on ait conscience des choses, donc qu'on soit averti des risques que ça génère. Donc notre ambition, c'est de sortir du lot. On est dans un monde qui est un peu polarisé. Donc on a dans le monde du digital, en gros, il y a les géants du net qui sont tous américains. On a les géants chinois qui ont une autre vision du monde et du digital, sur lesquels les données personnelles, la privacy, il y a pas beaucoup de réalité. Et je pense qu'entre les deux, il y a une voie, il y a une vision européenne du sujet, ou en tout cas occidentale du sujet, qui est probablement une voie, j'oserais dire, une vision un peu plus humaniste des bienfaits du digital, et c'est la voie que souhaiterait défendre Orange.
Merci beaucoup, Béatrice.
Voilà.
Merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et suggérez-moi des profils aussi intéressants que celui-là, voire même plus ou peut-être moins, j'en sais rien. On verra bien, à vous de juger de toute façon. Merci, bonne journée.